comment l'arianisme est presque sorti vainqueur. Au concile de Nicée en 325, Arius et ses idées étaient bannis. Mais pendant les décennies qui ont suivi, l'arianisme avait refait surface et l'orthodoxie gagnée à Nicée était de nouveau menacée. En effet, à cause de l'influence de l'empereur sur les affaires de l'Église, la théologie dominante de chaque époque dépendait de la position théologique des évêques qui avaient le plus d'influence auprès de l'empereur. En effet, l'unité théologique de l'Église fortifiait l'unité politique de l'Empire. Ainsi, si un empereur pro-arien arrivait au pouvoir, les évêques ariens dominaient et poussaient les évêques orthodoxes à l'exil et vice-versa. Tel fut le cas sous le règne des empereurs Constantius et Valérien ou encore Valens qui furent des pro-ariens. Sous leur règne, plusieurs évêques pro-nicées furent bannis. Par exemple, en 335, Constantin a fait exiler Athanase à 5 reprises, tandis que pendant la même année, Arius retrouva la faveur de l'empereur romain. Au cours des 56 années entre le concile de Nicée et le concile de Constantinople, les empereurs romains déposèrent et exilèrent plusieurs évêques et presbytres selon qu'ils les jugeaient schismatiques ou hérétiques. Ces actions ont créé une sorte d'atmosphère de suspicion, d'intrigue, de division et de haine au sein de l'Église. Les évêques orientaux pro-nicées avaient souffert sous le règne de Constantius. Après l'assassinat en 350 de Constance, ils refusent que le fils soit éternel dans le même sens que le père. Selon Arius, il fut un temps où le fils n'était pas. La réponse de Nicéaïsme, modalisme plutôt. D'autres théologiens, au contraire, ont affirmé que le père et le fils ne partagent pas la même nature, mais plutôt partagent une nature semblable, en grec « homoi ousios ». Mais si l'essence du fils est seulement semblable à celle du père, en quel sens est-elle alors différente ?